Bonsoir à toutes, à tous. Nous allons donc prendre la suite de ce parcours itinéraire de théologie fondamentale. J'ai un peu l'habitude, au début d'une séance, de reprendre rapidement ce que nous avons fait lors de la séance précédente. Donc je vais brièvement faire ça. Dans la suite, il y aura aussi évidemment du temps pour poser quelques questions. Peut-être pas aujourd'hui, il faut d'abord un peu avancer. Mais vous pouvez toujours adresser évidemment vos questions à moi, soit oralement, peut-être pas dans la pause, il faut un peu se reposer, et vous pouvez aussi l'écrire, évidemment. Alors, c'était le premier tour de piste la dernière fois, et le premier chapitre était au fond une manière de vous présenter déjà l'enjeu de l'ensemble de ce parcours de théologie fondamentale. Il y avait 4 textes d'écriture que j'ai mis ici en gras. Et le premier est ce qu'on appelle aujourd'hui la charte de toute théologie fondamentale. Soyez toujours prêts à faire l'apologie, apologian, devant quiconque, la figure du quiconque, vous demande raison, logon, de l'espérance qui est en vous. Ce qui m'a conduit vers une toute première définition un peu provisoire, très élémentaire de la théologie fondamentale, si vous regardez à la page 7, donc le troisième tiret, tout de suite, là, la théologie fondamentale situe la foi et l'espérance dans une situation de communication, donc ça c'est le niveau le plus élémentaire, où les interlocuteurs ne sont pas situés de la même manière. Donc c'est une formule très ouverte. L'un étant chrétien, l'autre ne l'étant pas, mais demandant au premier de justifier sa position en référence à ce qui leur est commun, la raison. Je traduis logos pour le moment de cette manière-là. Voilà, donc ça c'est le point de départ, donc avec une situation ou des situations, des questions qui se posent, ce qui déclenche un itinéraire d'intelligence, un chemin de liberté où nos évidences premières disparaissent. On peut parfois passer par des crises même à ce moment-là, mais c'est pour accéder à une foi et une espérance librement accueillies. Voilà, si vous voulez, je dirais le premier dessin tout provisoire de la théologie fondamentale. Alors, à partir de cela que nous avons précisé, c'était les deux premiers points du chapitre, un double geste. Donc, j'ai qualifié davantage cette situation de communication avec l'autre qui est autrement situé, en allant d'abord, je dirais, vers lui, et il y a toujours le retour sur nous-mêmes. Donc, avec la question du pourquoi adhères-tu à ce qu'on appelle la foi chrétienne, et le retour, mais quelle est pour moi effectivement cette foi chrétienne? Donc, la question pourquoi et quoi? Et avec ça, on a déjà, au fond, je dirais, l'élémentaire des deux premières parties de notre parcours. La foi chrétienne, c'est quoi? Proposition de la foi, et la deuxième partie, problème des motifs, pourquoi y adhérer, va s'ajouter à ça une dernière partie sur le comment. Donc ça, c'était la première distinction dans la situation de communication. J'ai précisé un peu le questionnement. Alors ensuite, deuxième distinction, qui sont les partenaires de la communication? Voilà, qui? Alors l'autre, dans le texte de Pierre, c'est quiconque, la figure du quiconque auquel je vais consacrer une bonne partie de notre séance, je dirais d'aujourd'hui. L'autre, qui est-il? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Mais de notre côté, il faut tout de suite, je dirais, introduire une réponse un peu complexe. L'interlocuteur, c'est à la fois moi-même, au nom de mon expérience de foi. Je réponds de ma foi, de l'espérance qui est en moi. Et en même temps, l'autre ne veut pas savoir seulement ce que je crois, mais il s'interroge évidemment ce que la communauté à laquelle j'appartiens dit de cette foi. Donc vous voyez, vous avez les deux sujets, expérience du sujet croyant, la tradition d'une communauté. Alors quand on interroge l'expérience personnelle, qu'est-ce qu'on appelle l'expérience? Ce que personne d'autre peut vivre à ma place. Donc j'avais proposé une formule très élémentaire à la suite de Martin Buber. Le sujet croyant s'éprouve fondé sur un autre. Et j'avais introduit les grandes distinctions, le mot Dieu, le nom même de Dieu dont il s'agit dans l'Écriture, Exode 3, etc. Et alors, tout le travail des métaphores qui interviennent ici et qui tracent donc l'expérience de foi, l'expérience chrétienne, cette fondation, comme un itinéraire qui traverse évidemment nécessairement des épreuves, parce que nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu. Et j'ai pris ici comme référence 1 aux Corinthiens, la métaphore du roc, vous rappelez, le rocher, 1 Corinthiens 10, qui se réfère à Exode 17. Voilà, ça c'était, si vous voulez, je dirais, ce que j'ai essayé de dire très rapidement, de la structure même de l'expérience du sujet croyant. Mais cette structure de l'expérience chrétienne croyante, effectivement croyante, ne peut exister sans une tradition. Ça, c'est le point absolument décisif qu'on va retrouver un certain nombre de fois maintenant dans la suite, je dirais, du parcours. Évidemment, parce que nous sommes des êtres de tradition, nous sommes des êtres de langue, nous naissons déjà dans une langue et dès qu'on utilise le mot « Dieu », on le dit déjà dans une langue donnée. Et donc, du coup, effectivement, il y a déjà avec notre langue quelque chose comme tradition, comme culture, comme vision du monde. Et il y a une raison beaucoup plus fondamentale, décisive, pour se référer à la tradition. Vous voyez, j'ai pas encore réellement défini ce terme, on va y venir plus tard. Il y a une raison plus fondamentale, c'est-à-dire pour la foi chrétienne, la foi, l'expérience de foi vient de l'écoute. Donc il y a une référence absolument nécessaire à une altérité. Vous voyez, c'est dans le point B, à la page 8, où s'est développé, dans le deuxième tiret, le point B, la raison fondamentale de la tradition en christianisme, la foi vient de l'écoute. La foi est à la fois, il faut souligner les deux en même temps, un acte vital et impossible à inventer par soi-même. Acte personne que ne peut poser à la place d'un autre, acte cependant qui doit être rendu possible par autrui. Voilà, il faut que j'entende quelque part le nom même de Dieu pour que je puisse invoquer ce nom de Dieu, appeler Dieu par son nom et le confesser. Ça nous ramène, si vous voulez, je dirais, au schéma à la page 59. On va y jeter un coup d'œil. Il va nous accompagner beaucoup pendant notamment pendant la première partie du cours. Vous voyez, avec cette référence, la lecture, le dernier des quatre textes que je vous ai proposé de Romains chapitre 10, avec cette distinction au fond de discours, le discours, voyez, le langage de la foi, les mots de la foi, donc le mot Dieu, les métaphores, le nom même de Dieu, n'existent que s'ils sont effectivement utilisés, si cette langue est effectivement utilisée concrètement. Donc il faut des porteurs du mot Dieu, des porteurs du nom de Dieu. Et c'est là où, selon saint Paul, vous voyez, on entre dans cette étonnante structure, je dirais, de renvoi, cette structure d'envoi, hein, tout à fait essentiel, la chaîne, au fond, des croyants, C'est-à-dire, on ne peut pas croire si on n'a pas entendu, on ne peut pas entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui a proclamé, qui a livré quelque chose. On ne peut pas prêcher si on n'est pas envoyé, parce que qui on est, de prononcer le nom même de Dieu en son propre nom. Donc, voyez, on entre dans cette magnifique structure que Paul reprend ici, avec quelque chose de tout à fait décisif. C'est-à-dire, ça, c'est public d'une certaine manière. Le discours est public. L'envoi est public, la prédication est publique. On peut dire aussi l'entendre est quelque chose de public, ça passe par l'oreille. Mais ensuite vient quelque chose d'absolument singulier, qui est l'acte de foi, qui vient du cœur, comme dit saint Paul, dans la grande tradition prophétique. Donc voyez, la bouche, le cœur, dans l'expérience de Dieu, de la prière, de l'invocation et de la profession de foi, a sa racine dans cet infini qu'est le cœur humain et dont Paul dit, il est habité par l'esprit même de Dieu. Et du coup, si vous voulez, les deux éléments, l'expérience absolument singulière et la tradition, ce qu'on appelle la tradition, voyez, comme un acte jamais garanti, parce qu'il y a cette ligne brisée. C'est jamais garanti. C'est pas parce qu'on prêche qu'on croit. Ça relève du cœur humain, de la liberté, la liberté humaine. Donc, c'est pas garanti. Donc, l'articulation est tout à fait décisive. Et ça, c'est retenez cette formule une fois pour toutes. Le point B, dans 2, la relation de conditionnement mutuel entre la tradition chrétienne et l'expérience du sujet croyant. La tradition juive et chrétienne réserve des places vides pour l'expérience du sujet croyant si elle n'existerait pas, si cette place n'était pas prise. Voilà. Donc je relis. La tradition juive et chrétienne réserve des places vides pour l'expérience du sujet croyant et elle, cette tradition, n'existerait plus, pourrait-on presque dire, si cette place n'était pas prise. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, vous connaissez tous cette formule, trouvera-t-il encore la foi? C'est une question. Donc, vous voyez, on a parfois une telle certitude que cette tradition est solide, mais il y a des chrétientés qui ont disparu. Des chrétientés entières ont disparu, l'Afrique du Nord, etc. Si les places ne sont plus prises, si l'expérience d'écoute n'est plus faite, évidemment, il n'y a plus de porteur de cette tradition. Donc, c'est la seule tradition, d'ailleurs, pour ça qu'elle est peut-être l'ultime tradition, hein, qui tient à cette articulation entre, voilà, une tradition et des sujets croyants. Voilà. L'expérience du sujet croyant ne peut pas vraiment advenir à elle-même sans un rapport au langage chrétien et donc à la tradition. Et voyez, c'est de là, et c'était le dernier point avec qui j'ai terminé la dernière fois, que c'est à partir de cela qu'on peut déjà avoir une première définition de la théologie. Elle est déterminée, au fond, par les deux points que je viens de développer, ce que j'appelle le double geste, quoi et pourquoi, et la complexité du sujet, c'est-à-dire le sujet communautaire, ecclésial, et le sujet, c'est-à-dire qui porte la tradition, qu'on garde, on va y revenir, appeler ça les tradentes, ceux qui transmettent une tradition, et le sujet individuel, et il y a le tiers, l'autre, c'est-à-dire quiconque. Alors, quelle est cette définition? Donc, faire de la théologie, c'est une démarche spécifique, et c'est au fond la première chose qu'il faut dire, ce qu'elle n'est pas, ce que n'est pas faire de la théologie. Prier et croire et invoquer Dieu, ce n'est pas encore la théologie. Donc, il y a une différence radicale ici. C'est très important de distinguer ça. Pourquoi c'est important? On ne peut pas exiger, évidemment, que tout croyant soit en même temps théologien. Voilà. Donc, il y a une différence. Faire de la théologie, c'est une démarche spécifique qui est d'un autre ordre que l'expérience de la foi. La théologie ne peut pas être identifiée à la foi ni à la prière. Maintenant vient le « mais », tout à fait décisif, mais elle présuppose l'expérience de Dieu du sujet, du théologien, et y renvoie continuellement. J'appelle ça la condition nécessaire. Parce que s'il n'y a pas ce présupposé, s'il n'y a pas ce renvoi, on est dans le champ de ce qu'on appelle science d'une religion. Voilà. Science d'une religion. C'est tout à fait légitime. On peut faire une science de la tradition chrétienne, une science historique, des traditions chrétiennes. C'est tout à fait légitime. Mais on ne fait pas de la théologie à ce moment-là. La théologie, c'est cette articulation par rapport à l'expérience et qui est en même temps l'expérience qui est porteuse, de cette tradition en raison de cette imbrication mutuelle que je viens d'expliciter. Alors du coup, vous voyez, je ne définis pas la théologie, je dis ce que c'est faire de la théologie. Parce qu'on peut ensuite définir aussi la tradition, mais la tradition c'est d'abord un acte, c'est-à-dire un transmettre, un prêcher, voilà. Un être envoyé, un envoyé. Voilà. Alors positivement, ça c'est la condition suffisante. Faire de la théologie, c'est participer activement au mouvement même de la tradition chrétienne, en la recevant et en la réinterprétant. Ah, voilà, c'est là le point. En la recevant et en la réinterprétant. Je peux la recevoir en me mettant dans une église, en écoutant une prédication, quelqu'un prêcher, ou une catéchèse, ou en lisant les Écritures, et ça nourrit mon acte de foi. Mais ce n'est pas encore faire de la théologie. Je fais de la théologie quand je la reçois et je la réinterprète. Donc je prends une responsabilité, et c'est ultimement la responsabilité même de la communauté chrétienne de faire ça, la recevoir en la réinterprétant, et maintenant vient le but décisif de la théologie, pour permettre à l'homme d'aujourd'hui de faire une expérience authentique de Dieu. Voyez, ça, c'est pas garanti. Si je traduis la tradition avec les mots simplement de saint Thomas d'Aquin, pour donner un exemple classique, voilà, personne va comprendre aujourd'hui parce qu'on n'est plus du tout dans cette culture. Donc je vais parler le langage des Indiens de l'intérieur, d'une petite élite. Je ne fais pas mon boulot de théologien parce que je m'inscris comme théologien dans une tradition dont je suis responsable, c'est-à-dire responsable, ça veut dire il faut la transmettre, livrer, interpréter de telle manière que ça puisse réellement atteindre le cœur humain d'aujourd'hui. Ah, là, on fait de la théologie. Vous voyez, j'espère que vous repérez bien, n'est-ce pas, ce point qui relève même de la définition de la tradition chrétienne. Voilà. Ça, c'est la condition suffisante. Donc, une condition négative et une condition positive. Voilà, la finalité. Et ça veut dire, le point C, l'autre en son identité historique. Ah, l'autre, quiconque, qui a une identité historique, culturelle, religieuse, etc., invite le croyant, c'est lui qui est le moteur d'une certaine manière, en frappant à la porte de la tradition chrétienne. Il est le moteur, d'une certaine manière, de notre questionnement. Je reviens aux deux premiers gestes. Parce que c'est lui qui dit, mais je ne comprends pas ce que tu racontes là. Pourquoi tu adhères à la foi? Qu'est-ce que c'est la foi chrétienne? Et vous voyez, ça déclenche le processus d'interprétation. Évidemment, au cœur de l'interprétation, il y a le problème de la vérité et de la fidélité. Je l'avais déjà indiqué la dernière fois. Voilà, ça nous conduit maintenant rapidement vers le deuxième chapitre. Je tenais beaucoup à vous redire ce point. Parce qu'il dit déjà un peu la totalité de ce qui va venir ensuite. Tout y est impliqué, nous allons le voir. Alors maintenant, donc je viens de définir la théologie. Qu'est-ce que maintenant la théologie fondamentale? Là encore, je ne vais pas tout de suite définir. Je vais vous dire les trois missions spécifiques de la théologie fondamentale. Les trois fonctions, comme on dit aussi. Alors, la première fonction, c'est la fonction épistémologique. Je vais rapidement expliquer, évidemment, les mots. La deuxième, c'est la fonction herméneutique. Et la troisième, c'est la fonction apologétique. Trois fonctions, trois missions. Alors, en fait, nous avons déjà exercé ces trois fonctions. Donc, il me suffit maintenant d'expliquer quasiment les mots. Alors, dans le premier chapitre, je viens de faire de ce qu'on appelle techniquement l'épistémologie de la théologie. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, je viens de dire que le premier acte de la théologie est un acte d'humilité. C'est-à-dire, la théologie dit, je ne suis pas la foi. J'en ai fait un personnage, d'une certaine manière. Je ne suis pas la foi. Voilà. Je ne suis pas l'expérience de foi. Je ne peux pas me substituer à la foi. Je n'ai qu'à servir la foi. Et je le fais en étant le plus raisonnable possible. Voilà. Je sers la foi en étant le plus raisonnable possible. Vous voyez la question du logos. Et en faisant un discours ici, logique, logos, raisonnable, je dis déjà implicitement que je ne suis pas en train de prier, ce que je fais par ailleurs, et d'invoquer Dieu. Donc vous voyez, c'est un acte d'humilité en se comportant raisonnablement. Et ensuite, évidemment, ce sujet que je suis en train de jouer d'une certaine manière dans cette pièce va se multiplier, se complexifier et va se transformer en ce qu'on appelle aujourd'hui faculté de théologie. Parce qu'en me comportant raisonnablement, évidemment, je suis face à des textes. Je vous ai cité quatre textes. Je fais de l'histoire. Et donc, voyez, je suis déjà renvoyé à l'exégèse biblique, une discipline raisonnable, à l'histoire du christianisme. Et quand je continue à me poser des questions sur l'identité chrétienne, voyez, je suis rapidement dans la question du dogme, de la normativité, de la pratique, de la morale, de la théologie pratique et pastorale, et vous voyez, tout d'un coup, le personnage va se multiplier d'une certaine manière et va devenir ce qu'on appelle une faculté de théologie. Voilà, je suis en train de faire avec vous l'épistémologie de la foi. Alors, d'où vient ce terme technique? C'est un terme grec, épistémé, épistémé, ce qui veut dire savoir, savoir, tout simplement. On l'a chez Parménide, chez Platon, évidemment chez Aristote. L'épistémologie, c'est la doctrine du savoir, ou au pluriel des savoirs, au pluriel. Et donc, les Grecs distinguent entre opinion, voyez ce que vous lisez rapidement dans les journaux, les opinions, l'opinion publique, etc. Opinion, je pense que, il me semble que, c'est mon avis que, etc. Le savoir, c'est déjà autre chose. Vous entrez dans un processus d'argumentation, de vérification. Voilà, vous sortez de l'opinion, vous fondez les choses. Et ultimement, c'est la question de la vérité qui se pose. Voilà. Donc, l'épistémologie. Et voyez, ça a commencé relativement tôt, hein, on peut dire grosso modo à partir du 4e siècle, je vous ai déjà cité la dernière fois saint Augustin, Fides quaerens intellectum, voyez, la foi à la recherche je dirais, de l'intelligence. Donc on va distinguer les lieux, c'est-à-dire l'écriture, je dirais le symbole, etc. Et on va y introduire un savoir, un logos, une structuration. Et au Moyen Âge, on va commencer à distinguer, notamment au XIIe, XIIIe siècle, évidemment, entre une théologie qui se fait dans les monastères, très proche de la prière, et une théologie à l'université, l'université parisienne. Et c'est au XIXe siècle que va commencer l'idée de faculté. Ça commence grosso modo à Berlin avec une très grande figure, Schleiermacher, Humboldt, peu importe ses noms, nous sommes tout à fait au début du XIXe siècle, après la Révolution française, et c'est la philosophie qui va devenir, va remplacer d'une certaine manière la théologie, la maîtresse des savoirs, des sciences, et ça va s'organiser, si vous voulez, ce qu'on appelle donc les facultés, philosophie, théologie, sciences, sciences humaines, etc. Et voyez, la raison va se différencier. Voilà la fonction épistémologique de la théologie fondamentale. Donc la théologie fondamentale a cette fonction, au fond, de réfléchir. Qu'est-ce que c'est la théologie? Qu'est-ce que c'est la théologie? Donc nous l'avons fait déjà un peu dans le premier chapitre, et je vais y revenir dans la troisième partie. Mais normalement, en première année, on ne va pas faire beaucoup d'épistémologie, de la théologie. Donc cette fonction, elle sera surtout exercée dans les dernières années. Voilà. Alors ensuite vient la fonction herméneutique. Là encore, nous venons d'exercer la fonction herméneutique parce que c'est la question de l'identité de la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est quoi? Et il y a une hypothèse, je dirais, derrière, que j'ai déjà explicité, je dirais, il y a quelques instants. On ne peut pas répondre à cette question sans se référer donc à la fois à l'expérience du théologien et à la tradition. C'est la tradition de la communauté chrétienne qui répond à cette question et qui l'herméneute, j'expliquerai ce terme, interprète de sa propre identité. Vous voyez, je dis pour le moment tradition pour pas complexifier les choses, pour pas tout de suite parler de l'Église, communauté, magistère, etc. On va revenir à ces questions. Voilà. Donc c'est la tradition qui est l'herméneute. Voyez. Alors, la tradition, avec Romains 10, je viens de vous le montrer, est un processus complexe. C'est un livret et un recevoir. Un livret et recevoir. Un livret et recevoir. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 15 aussi, je vous ai transmis ce que j'ai reçu moi-même. Voilà la formule magnifique de saint Paul. À la veille de sa mort, le Seigneur Jésus, voilà, a pris du pain et il l'a livré, voilà, il s'est livré lui-même, etc. 1 Corinthiens 15, vous connaissez sur la résurrection, on va y revenir. Donc c'est un processus de livraison et de réception. Et j'ajoute ici, ce processus se vit évidemment différent selon les contextes historiques et culturels. Il ne se vit pas de la même manière au 4e, au 13e, au 16e, au 19e, au 21e siècle. Et c'est là où intervient l'interprétation, ce qui est la tâche de la théologie fondamentale et ensuite de la dogmatique, recevoir et livrer implique un interprété. Un interprété. Voilà. Ça, c'est la fonction herméneutique de la théologie fondamentale que nous allons exercer dans la toute première partie du cours en répondant à la question « La foi chrétienne, c'est quoi ?» Voilà. Fonction herméneutique. Alors, d'où vient ce mot ? Connaissez l'histoire des Actes 14, verset 12. Vous voyez, Paul et Barnabé, les deux apôtres, sont à Lystre. Et les gens veulent leur faire une offrande parce qu'ils les prennent respectivement pour Zeus et pour Hermès. Barnabé, il est un peu comme Moïse, c'est-à-dire il ne sait pas très bien parler apparemment. Apparemment, il est peut-être même taciturne un tout petit peu, ce qui est un problème pour un apôtre. Mais bon, il continuera tout seul après son chemin. Et parce que Zeus ne parlait pas, évidemment. Dieu ne parle pas, Zeus, le premier des divinités. C'est Hermès qui est son messager. Hermès, son messager. Et donc les gens de l'Istre prennent Barnabé pour Zeus et Paul pour Hermès. Un peu comme Aaron, vous voyez, qui parle quand Moïse ne peut pas parler. Voilà. Hermès, c'est le messager. Et c'est de là que vient, déjà, je dirais, à l'époque de Platon, et après dans tout l'hellénisme, Hermès devient la figure du messager, le messager de Dieu, l'interprète de Dieu. Et l'herméneutique, c'est l'art de l'interprétation. C'est un art. L'art de l'interprétation. Le premier grand théoricien de l'herméneutique, c'est justement ce théologien protestant de Berlin, Schleiermacher, dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi un grand lecteur de Platon. Parce que l'herméneutique, évidemment, Platon est interprète de Socrate. Vous voyez, on n'a pas le Socrate historique, on a le Platon vu par Platon et Aristophane et d'autres. Donc Paul, l'herméneute, voilà, de notre Seigneur Jésus-Christ. La science, l'art herméneutique. Donc voilà, ça c'est la deuxième fonction de la théologie fondamentale. Et maintenant la troisième fonction, vous la connaissez bien déjà aussi, l'apologétique. J'ai commencé par là, c'est la charte de la théologie fondamentale, dans le premier chapitre, dans la première lettre de Pierre, c'est-à-dire la définition du terme, je l'ai donné, apologian, voyez, c'est la défense, la justification, la réponse à la question pourquoi. Et donc, ce sera la deuxième partie du cours. Alors, il faut bien voir que les trois fonctions sont intimement liées. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre tout au long de notre parcours. On ne peut pas séparer, nous allons le voir, la question du quoi, du pourquoi et du comment. Donc, première partie, herméneutique, deuxième partie, apologétique, troisième partie, à la fois apologétique et épistémologique, avec la question du comment. Et les trois sont intimement liés dans la tradition chrétienne. Alors, on va passer maintenant, je dirais, au plat de résistance d'aujourd'hui, le troisième chapitre, c'est-à-dire on va s'intéresser maintenant à la figure que j'ai déjà beaucoup évoquée, et c'est la figure du quiconque, la figure du quiconque. Et voyez ce que je vais faire maintenant, découle logiquement de ce que je viens de dire. Il faut prendre au sérieux l'aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, dans Luc. Et l'aujourd'hui d'aujourd'hui n'est pas l'aujourd'hui d'hier et n'est pas l'aujourd'hui de demain. Et donc, il faut partir d'un diagnostic du moment présent. Alors, c'est pas facile, vous voyez, parce qu'il y a, je dirais, deux termes ici dans le titre, spirituel et époque. Qu'est-ce que c'est notre époque? Donc, il faudra préciser cela, évidemment. Et voyez, dans le deuxième point de ce chapitre, je vais rapidement distinguer modernité, l'époque moderne, occidental, parce que c'est peut-être la grande caractéristique au fond de l'Occident, ce seuil qui commence au XVIIIe siècle avec les Lumières et qui continue, qui va produire la démocratie, etc., etc., l'idée d'autonomie, de dignité du sujet, et la postmodernité, comme on dit maintenant, et qui n'est plus du tout occidental, qui est mondial. Et nous, on est déjà ici dans cette salle un peu, au moins pour une partie, un symbole de ça. C'est-à-dire le pluralisme radical. Le pluralisme radical des cultures. Donc, il faudra bien préciser notre époque et on va le faire progressivement. Mais il y a une deuxième, je dirais, difficulté dans le diagnostic que je vais vous proposer maintenant. C'est, je dirais, le mot spirituel. Et vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Spirituel n'est pas religieux. Ça inclut le religieux. Mais quand vous posez la question du sens de votre existence, voyez, c'est peut-être un acte spirituel. C'est pas un hasard, je dirais, que dans la Constitution européenne, ça a été beaucoup négocié, on a finalement renoncé, contrairement à la Constitution américaine, de l'Amérique du Nord, on a renoncé au mot Dieu. J'en suis très content parce qu'il mérite mieux Dieu que de figurer dans une constitution. Voilà. Mais on a maintenu les traditions spirituelles. Les traditions spirituelles. Donc le terme, vous voyez, spirituel, il est à la fois connecté avec pneuma hagion, le Saint-Esprit, évidemment, dans le cœur de tout être humain, ce que dit le théologien, mais vous voyez, il a un versant profane, pourrait-on dire, plus large, à travers la question du sens. Et ça, ça fait partie du diagnostic du moment présent de notre époque. Alors, je viens déjà de le dire, il y a au fond un problème d'interprétation ici, et donc vous voyez, je vais de nouveau commencer là un tout petit peu à faire avec vous de l'épistémologie. De l'épistémologie, c'est la rigueur, je dirais, de la théologie. Donc, question, donc vous voyez, c'est les cinq tirets, là, dans le premier point, un problème d'interprétation. Qui est l'autre auquel nous nous adressons? Donc ça, c'est la question initiale. Qui est l'autre auquel nous voulons nous adresser, auquel nous proposons la foi? Alors, à première vue, je dirais, la réponse est d'une extrême diversité, hein. D'une extrême diversité, simplement quand nous regardons déjà ici une ville comme Paris, hein, nos villes, les populations, les banlieues. Alors on peut évidemment rapidement trouver un peu, j'ai dit, des catégories, hein, ce que la pastorale fait, par exemple. Il y a des cultures, il y a évidemment des nationalités, des cultures, des religions. Ensuite on distingue des classes parfois, j'ai dit, ou des milieux. Des âges, voyez, dans cette diversité extrême, il faut évidemment, je dirais, arriver à distinguer des catégories. C'est très important. Donc il faut universaliser d'une certaine manière, introduire des catégories pour pouvoir, à l'intérieur de cet ensemble, respecter très radicalement de la singularité de notre interlocuteur, à la fois sa singularité radicale et en même temps le contexte dans lequel il se situe. Donc vous voyez, ça nous invite déjà à ce qu'on appelle parfois aussi une théologie fondamentale contextualisée, contextualisée, en raison du diagnostic. Alors après, il faut introduire ici une première distinction tout à fait décisive. Qui est celui auquel je m'adresse? Et je peux regarder cela comme théologien de deux manières différentes. Je vais d'abord m'intéresser à sa culture, donc une perspective culturelle. Et le terme culture, prenons-le d'une manière un peu englobante. Voilà. La culture de quelqu'un. Au fond, le monde dans lequel il évolue. Le monde dans lequel il évolue. Mais en même temps, je vais m'intéresser, et sinon je ne suis pas théologien, vous voyez, c'est là où intervient la distinction épistémologique tout à fait décisive, à la perspective spirituelle de ce quiconque. Je vais l'approcher dans une perspective spirituelle. Et quelle est cette perspective spirituelle? c'est au fond sa capacité d'écoute. Sa capacité d'écoute. Sa disponibilité à la foi. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et voyez, ça demande déjà de la part, évidemment, du chrétien lui-même quand il rencontre l'autre. En pastoral, par exemple. Dans une conversation quotidienne. A fortiori, quand il est théologien, ça demande une sacrée capacité d'écoute, de percevoir finalement, mais l'autre, de quoi me parle-t-il finalement? Il parle de son monde, il est dans son monde, mais il a intérêt pour quoi? Finalement, est-ce que c'est un être ouvert, quelque part ouvert? Vous voyez, apparaît la perspective spirituelle. Et immédiatement émerge ici, évidemment, l'interprétation. L'interprétation. Parce que nous ne sommes pas devant des faits objectifs ici. La seule science, entre guillemets, qui n'en est pas une, à laquelle on peut éventuellement comparer ce que je suis en train de faire là, c'est la météorologie. Vous voyez, la météorologie. Jésus de Nazareth fait cela, en parlant des signes des temps, d'ailleurs. Vous savez bien discerner, vous voyez, le temps. Quel temps fait-il? Voilà. Quel climat fait-il? Mais c'est devenu extrêmement précis déjà. On a des prévisions remarquables, possibles maintenant, sur plusieurs jours. C'est possible déjà. Mais en même temps, vous voyez, c'est des probabilités, des extrapolations. Et au fond, ce qui est important, le positionnement de celui qui prévoit ici est totalement impliqué. Nous sommes dans une interprétation. On interprète, on est herméneute et on y est impliqué totalement, parce qu'on y est intéressé. Alors, je donne un petit exemple, vous voyez, pour les problèmes d'interprétation. Les difficultés d'analyse culturelle et les difficultés du diagnostic spirituel. Je pourrais, par exemple, dire ceci. Oui, finalement, la modernité occidentale, elle a produit l'athéisme, la critique de la religion, ce qu'on nous renvoie souvent, n'est-ce pas, l'Europe est devenue, au fond, un pays sans religion, l'indifférence. Donc, à partir de mon analyse culturelle, historique, sociologique, de la culture française, de la culture européenne, évidemment il faudrait différencier, je conclus immédiatement en disant, bon, il n'y a pas de disponibilité pour la foi. Vous voyez, je passe indûment d'une analyse culturelle à un diagnostic spirituel. Alors, est-ce que c'est si simple que ça? C'est-à-dire, comment négocier ce passage dans un diagnostic? On a connu, après le synode de 1985, 20 ans après le concile, on va revenir à ce texte plus tard, très brièvement. Vous avez au début du texte du synode le diagnostic suivant. Le retour du religieux. En Europe, c'est maintenant la postmodernité, le religieux revient. Et qu'est-ce qu'on en a conclu? Ah, il y a le sacré qui revient, le religieux qui revient, il y a des nouvelles disponibilités pour la foi. Voyez, le premier raisonnement est aussi périlleux que le second. Parce que le passage d'une analyse historique et sociologique globale au discernement précis d'une disponibilité à la foi chrétienne n'est pas automatique, mais relève d'une interprétation qui est chaque fois complexe. S'ajoute à ça, évidemment, une difficulté encore plus importante que la raison humaine que je fais intervenir pour ce diagnostic peut aussi s'aveugler. Vous voyez, la raison, c'est pas quelque chose de lisse et limpide. le diagnostic où j'utilise la raison humaine. Elle peut s'aveugler, cette raison. Et c'est la déraison qui peut s'y introduire sous la figure de la raison, ou pour le dire théologiquement, le péché peut s'y introduire. Donc tout ça pour vous avertir un tout petit peu, dès le départ, que faire un diagnostic, ce qu'on fait nécessairement en pastoral, et ce qu'on fait nécessairement en théologie fondamentale, c'est un acte, vous voyez, où il faut prendre un peu ses pincettes et faire attention, notamment qu'on ne fasse pas des courts-circuits trop rapides, et notamment que vous concluiez d'un diagnostic parfois un peu désespéré concernant l'état de la religion en Europe, du christianisme, en disant, bon, mais on traverse une sacrée crise, tout fout le camp, vous connaissez un peu ce discours, n'est-ce pas? Les communautés chrétiennes n'arrivent plus à vivre, peut-être la foi chrétienne est-elle en train de disparaître. On connaît tous ces discours qui traversent, n'est-ce pas, nos masses médias. Attention de ne pas conclure de cela au diagnostic spirituel qui porte sur la disponibilité. Parce qu'on pourrait parfaitement tenir dans une situation de crise, la disponibilité et augmente plutôt, au meilleur sens du terme, c'est-à-dire que les gens s'interrogent sur le sens de leur existence, sur le sens du vivre en société. Voilà, alors on appelle ça théologiquement, dernier point épistémologique, lire les signes des temps. Voyez, ça c'est un terme biblique. Je vais vous lire les deux passages très très rapidement. Vous les trouvez dans Matthieu et dans Luc. Matthieu 16, 1, 4. Les pharisiens et les sadducéens s'avancent et pour lui tendre un piège, il s'agit de Jésus, lui demandèrent de leur montrer un signe qui vienne du ciel. Il leur répondit, le soir venu, vous dites, il va faire beau, car le ciel est rouge feu, et le matin, aujourd'hui, mauvais temps, car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez interpréter l'aspect du ciel, et les signes des temps, vous n'en êtes pas capables. Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait, de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Il les planta là et partit. C'est magnifique. Signe de Jonas, n'est-ce pas? Bon, vous le connaissez. Hein? Donc, ultimement, je fais un raccourci, c'est le signe de la foi. Le signe par excellence, c'est le signe de la foi. Donc, voyez, discerner les signes des temps, je traduis un peu, c'est percevoir dans notre temps et chez autrui la disponibilité à la foi. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il a rencontré le centurion? Jamais en Israël j'ai trouvé une telle foi. C'est ça le signe. Alors l'autre texte, c'est donc chez Luc. Il faut les comparer, mais je ne vais pas le faire maintenant. Luc 54, suivant, il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever au couchant, vous dites aussitôt la pluie vient. » Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il va faire une chaleur accablante, et cela arrive. Esprit perverti, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel, et le temps présent, vous voyez, là, les signes des temps viennent, le temps présent, comment vous ne savez pas le reconnaître? Alors c'est plus miséricordieux dans son expression. Il ne les planta pas là, mais il leur pose la question. Savez-vous discerner le temps? Quel temps est-il? Le veilleur, n'est-ce pas? Quel est le moment? Voilà l'enjeu du diagnostic spirituel de notre époque. Et voyez, Jésus lui-même fait ici le lien avec cette sagesse agricole, c'est-à-dire ce qui deviendra plus tard la météorologie. Voilà. Bien, alors Vatican II a repris ça. Et c'est le début de Gaudium et Spes, la constitution pastorale. Parce que l'enjeu de la constitution pastorale, c'est précisément, le titre c'est, évidemment, sur l'Église dans le monde de ce temps. On est en 65. Le monde de ce temps de 65, c'est pas le monde de ce temps d'aujourd'hui. Et du coup, le texte commence avec son numéro 4, ce qu'il appelle un exposé préliminaire. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous. Ça fait partie de la théologie fondamentale. Et le titre, c'est « La condition humaine dans le monde d'aujourd'hui ». La condition humaine dans le monde d'aujourd'hui. La théologie fondamentale commence par cela. Voilà. Et donc, tout de suite, numéro 4, pour mener à bien cette tâche, l'Église a le devoir, à tout moment, donc vous voyez, pas uniquement hier, mais encore aujourd'hui et demain. Donc on est dans l'historicité de la tradition. À tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. De telle sorte, voyez, vous avez la visée qui est dans ma définition de la théologie, que l'homme d'aujourd'hui puisse faire une expérience authentique de Dieu, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Prodigieux. Tout le programme est là. Pour 1965. Et ensuite, on vous donne le diagnostic. Donc je vous invite à le lire, c'est pas très long, mais c'est très intéressant de le lire, et lisez-le à partir de votre propre expérience d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous y reconnaissez encore, et jusqu'à quel point? Et ensuite vient la première partie, l'Église et la vocation humaine, et là on a dans le numéro 11 de nouveau cette référence au signe des temps. Voilà donc, j'en ai fini avec le problème épistémologique. La fonction épistémologique. Discerner l'époque d'un point de vue spirituel. Alors maintenant, on va y entrer. Donc c'est le deuxième point, modernité occidentale et postmodernité mondiale. Et je vais donc tout de suite ici distinguer ces deux temps. J'en ai déjà donné la raison. La culture méditerranéenne qui a vu naître le christianisme a généré ce qu'on appelle la modernité occidentale, évidemment avec d'autres composantes, la Grèce, évidemment l'hellénisme tout à fait décisif, je l'ai déjà dit, ensuite le judaïsme, bien sûr, et aussi l'islam, la modernité occidentale. Et ensuite vont intervenir, et c'est déjà pendant le Concile le cas, les autres cultures et religions, et là on est en postmodernité, décolonisation, etc. Et tout d'un coup, le monde bipolaire, 1989, la chute du mur de Berlin, disparaît, et on entre dans un monde qui risque d'être très chaotique, un monde multipolaire, pluriel, pluralisme radical. Voilà les deux situations. Alors, je vous ai choisi deux textes un peu emblématiques pour caractériser la modernité et la postmodernité. Le premier texte, c'est d'Émile Durkheim. Je vous ai donné ici la référence et vous l'avez à la page 64. Donc, je vous invite de le regarder. C'est un petit chef-d'œuvre. Il est très court, très connu. Vous voyez, 1922, et qui est au fond, donc c'est un des trois grands sociologues, pourrait-on dire, fondateurs de la sociologie historique, Émile Durkheim en France, Max Weber en Allemagne. Le deuxième texte, vous voyez à droite, pour la postmodernité, c'est Max Weber qui est la référence, je vais y revenir. Et le troisième, c'est Ernst Troeltsch. Donc très proche de Max Weber, ils ont vécu ensemble à Heidelberg, mais Troeltsch a surtout travaillé à Berlin aussi. Voilà donc le texte. S'il est une vérité que l'histoire a mise hors de doute, c'est que la religion embrasse une portion de plus en plus petite de la vie sociale. À l'origine, elle s'étend à tout. Tout ce qui est social est religieux, les deux mots sont synonymes. Puis, peu à peu, et là on entre dans la modernité occidentale, les fonctions politiques économiques, scientifiques, s'affranchissent de la fonction religieuse, se constituent à part et prennent un caractère temporel de plus en plus accusé. Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui était d'abord présent à toutes les relations humaines, s'en retire progressivement. Il abandonne le monde aux hommes et à leurs disputes, du moins s'il continue à les dominer, c'est de haut et de loin. Voilà. Donc ça c'est très rapide, mais extrêmement précis. Donc trois choses à retenir. D'abord, je dirais le point de départ, qui est très important, tout ce qui est social est religieux, et tout ce qui est religieux est social. Voyez, je prends uniquement l'exemple de la France ici, mais vous extrapolez facilement. Vous traversez la France, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des églises au cœur des villages, voyez, qui organisent l'espace, les croix au bord des chemins, l'espace, le temps, le calendrier religieux, les fêtes. Voilà. Et ce qui s'oppose, si vous voulez, aux religieux, c'est pas d'une certaine manière le nom religieux. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire c'est le chaos qui s'oppose à ça. Comme dans le premier récit de la création, le religieux organise le monde et fait que le monde n'est plus un chaos. Donc l'espace, le temps, donc les vecteurs les plus importants de l'existence humaine, plus l'hiérarchie sociale, qui est souvent une hiérarchie religieuse. Et même, évidemment, je dirais, à partir de Jésus de Nazareth, donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu, vous voyez, on va encore, je dirais, d'une certaine manière, s'inscrire dans ce que Dumézil a appelé, n'est-ce pas, la tripartition indo-européenne, le roi, le prophète, le travailleur, vous voyez. Donc, vous avez les distinctions entre, d'un côté, ce qui est de l'ordre du gouvernement et de l'autre côté, ce qui est de l'ordre du prêtre, du sacerdotal. Et il faudra du temps pour qu'on arrive, 1905, à une séparation en France entre l'Église et l'État. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Alors qu'est-ce que c'est au fond la modernité, selon Durkheim, et c'est le point, je dirais, il est extrêmement précis. Je donnerai, dans d'autres cours, on peut donner d'autres éléments, mais là, c'est le plus important. La différenciation. Modernité égale différenciation. Un processus de différenciation. D'émancipation. Vous voyez, c'est clairement dit dans le texte. Fonction, c'est le terme. Des fonctions. Une société n'existe pas s'il n'y a pas des fonctions qui sont exercées. Et la fonction religieuse, désormais, n'est plus la fonction englobante. Fonction politique, économique, scientifique, s'affranchissent, ce qui rend possible l'affaire Galilée, etc. Finalement, la séparation de l'Église et de l'État. Des fonctions différentes. Le religieux n'est plus englobant. Ce qui est d'ailleurs un énorme problème pour le religieux et pour l'être humain. Parce que le problème numéro un que pose la modernité, c'est l'unité de l'être humain. Comment, quand il vit dans plusieurs existences à la fois, quand en politique il parle de politique, en économie il parle de l'économie, en droit il parle de droit, vous voyez, en science il parle de science, comment fait-il l'unité de cela? Là, c'est déjà une question spirituelle. Là, on touche le spirituel. Avec cette question, l'unité, où est l'unité? On vit avec des logiques différenciées. Voilà, c'est ça la modernité occidentale, différenciation. Et troisièmement, voyez, que devient là-dedans le religieux? Voyez, d'abord il faut dire, le religieux, une fonction importante du religieux, c'est Peter Berger, je le nomme un peu en passant ici, donc un grand sociologue de la religion, des religions américains, qui a souligné beaucoup ça, Berger, B-E-R-G-E-R, Peter Berger. C'est bien traduit en français, ça se lit très facilement. Il analyse d'abord la différenciation et il va montrer que la fonction principale exercée par la religion ou les religions, c'est-à-dire la fonction d'intégration de la société, est désormais exercée par l'État. L'État. Et voyez, c'est pour ça que l'État, en France, c'est très net, mais aux États-Unis aussi, en Allemagne aussi, en Italie, l'État est souvent un pseudo-religieux, il a une fonction presque religieuse. Le totalitarisme conduit ça jusqu'au bout. Voyez, le totalitarisme devient possible en Europe après la différenciation. C'est-à-dire, l'État s'arroge des fonctions que la religion a exercées. Totalitarisme, horrible, terrible, on a connu ça. Mais l'État frôle souvent le religieux. Et le religieux est un peu sa concurrence, c'est clair en France. L'État français est monothéiste, il y a le président de la République et il est peut-être pas trinitaire, mais binitaire peut-être. Parce qu'il y a un premier ministre, donc il y a deux. Et il est voué à l'obéissance totale hein, au président, sinon il est éjecté. Donc vous voyez, la structure religieuse se transmet d'une certaine manière ici. Différenciation. Donc elle est exercée par l'État de providence, comme on dit parfois. Voyez. Donc c'est l'État qui protège la société contre le chaos. C'est ça qui est attendu de lui, n'est-ce pas? L'État de droit et le gouvernement. Voilà. Et alors, le religieux, ça c'est le dernier petit point, on va faire la pause. Le religieux devient objet de marché. Ça c'est Peter Berger qui montre ça. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire, ça devient un bien concurrentiel. Quand dans un État, dans une société, pardon, le religieux a le monopole, et est de l'ordre de l'évidence. On est chrétien en Europe jusqu'à une certaine époque. On ne devient pas chrétien, on est chrétien. Tout le monde est baptisé. Ça fait partie de l'évidence, sauf une sorte d'élite. Voilà. Là, on ne peut pas parler de monopole, il n'y a pas de concurrence. Les concurrences commencent au XVIe siècle, avec la réforme, justement. Ah, là se posent des questions. Est-ce que je serai catholique? Est-ce que je serai luthérien, calviniste? Qu'est-ce que je serai? Et voyez, le marché des biens religieux commence parce que chacun doit se distinguer par rapport à l'autre, préciser sa définition, qui il est. Voyez, la question, la foi chrétienne, c'est quoi, intervient immédiatement ici. Mais sous un registre terrible de concurrence, de biens religieux. Jusqu'au mariage, aujourd'hui, où est-ce que je vais me marier? Ah, j'ai besoin d'un tel prêtre, j'ai besoin d'une orgue pour la musique, je veux avoir une belle église, il faut que ce soit proche de la salle où je vais fêter, etc. Vous connaissez tout ça, vous voyez. Le marché des biens religieux. Voilà la situation. Alors, il faut l'interpréter. Il faut l'interpréter et on va le faire après la pause. Donc ce texte de Durkheim, il est emblématique de l'époque moderne, donc je l'ai un peu commenté, processus de différenciation, la mise en crise, pourrait-on dire, des religions, du religieux, qui ne couvre plus la totalité, je dirais, de la vie sociale et le problème au fond de l'unité interne de l'être humain qui est posé avec beaucoup de radicalité ici. Donc on peut dire que la théologie fondamentale a pris ça au sérieux. Alors elle s'est greffée, au fond je dirais dans son acte d'interprétation du moment présent, sur ce qu'on appelle d'une manière beaucoup plus spécifique que le fait Durkheim, la critique de la religion, donc avec ces grandes figures que sont Marx, Freud, surtout Nietzsche aussi. Et la théologie fondamentale a essayé de repérer au fond, je dirais, de cette grande mutation culturelle en Europe, ce qu'on appelle donc la modernité occidentale une valeur fondamentale, l'aspiration à l'autonomie. L'aspiration à l'autonomie. L'autonomie, vous voyez, c'est un terme conscient et qui veut dire, au fond, la loi, nomos, ne vient pas de l'extérieur, hétéronomie. Mais la loi habite dans l'être humain. Et donc, il doit, d'une certaine manière, y consentir à partir de ce qui a le plus propre en lui, et c'est sa propre liberté. Donc la valeur de l'autonomie, reliée ensuite à la valeur de la dignité humaine. Donc la liberté, l'autonomie et le respect, c'est ça la dignité, de la dignité d'autrui. Vous voyez, c'est ça au fond qui est sorti d'un point de vue diagnostique spirituel, je dirais, de ce processus de différenciation. Quand la religion n'englobe plus tout, c'est l'être humain tout d'un coup qui émerge avec force. Je dirais presque, c'est une mise à nu de l'être humain, ce qui le porte ultimement. Alors, le concile, toujours la constitution pastorale, Gaudium et Spes, a reçu ça dans le numéro 36, les paragraphes 2 et 3. Si par autonomie des réalités terrestres, vous voyez, c'est presque, j'ai dit, un langage de Durkheim, terrestre ou temporel. Si par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Non seulement elle est revendiquée par les hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du Créateur. Donc vous voyez, on réinterprète ici, au fond, cette poussée, pourrait on dire, la conscience moderne en modernité, l'émergence de l'autonomie dans le processus de différenciation, on l'interprète théologiquement, la volonté du Créateur. C'est en vertu de la création même que toutes choses sont établies selon leur consistance, leur vérité et leur excellence propre avec leur ordonnance et leur loi spécifique. L'homme doit respecter tout cela et reconnaître les méthodes particulières à chacune des sciences et techniques. Vous voyez, c'est presque Durkheim ici. C'est pourquoi les recherches méthodiques dans tous les domaines du savoir épistémé, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Bien plus, celui qui s'efforce avec persévérance et humilité de pénétrer les secrets des choses, celui-là même, s'il n'en a pas conscience, est comme conduit par la main de Dieu qui soutient tous les êtres et fait ce qu'ils sont. À ce propos, qu'on nous permette de déplorer certaines attitudes qui ont existé parmi les chrétiens eux-mêmes, insuffisamment avertis de la légitime autonomie de la science, source de tensions et de conflits, elles ont conduit beaucoup d'esprits jusqu'à penser que science et foi s'opposent. Vous voyez, c'est une allusion évidemment à l'affaire Galilée que vous trouvez ici. Je ne commente pas tout le texte, mais ce que je veux dire, vous voyez, que la théologie fondamentale, et ici le Concile, a donc reçu ce diagnostic de la modernité occidentale en discernant au cœur, je dirais, cette valeur fondamentale de l'autonomie, l'autonomie de la liberté de la conscience, le respect d'autrui. Et on appelle ça, maintenant vient le terme technique, le tournant anthropologique de la théologie fondamentale en Europe. Anthropologique, de anthropos, l'homme, l'anthropologie. Donc, voyez, l'homme devient, dans la modernité occidentale, le centre de cette théologie fondamentale. Et je vous ai indiqué, on ne va pas faire l'histoire de ça, ce n'est pas l'enjeu. Les trois étapes, si vous voulez, ce qu'on appelle la théologie transcendantale de Karl Rahner, donc inspirée lointainement au fond du tournant kantien, c'est-à-dire avec donc la conscience et l'autonomie au centre. Et c'est Rahner qui est derrière ce paragraphe 36 que je viens de vous citer, voyez. Donc au fond, je dirais, au cœur même de l'autonomie humaine, il y a déjà le Créateur qui est présent. Et ensuite, l'élargissement, théologie politique. Alors la théologie politique de Jean-Baptiste Metz, aussi européenne évidemment, qui s'intéresse beaucoup à la constitution politique de la modernité. Qu'est-ce que c'est la démocratie, finalement? Et est-ce que théologiquement on peut en dire quelque chose? Donc c'est pas uniquement l'homme individuel, un peu comme chez Rahner, mais l'homo politicus, c'est-à-dire l'être humain comme un être politique. Et finalement, la première théologie de la libération, donc avec le concept de libération, très fortement aussi marqué, évidemment, par la modernité occidentale, avec la notion d'action qui est au centre de la Constitution, Gaudium et Spes, la militance pour la liberté humaine. Donc vous voyez, c'est plus le religieux, le christianisme comme religion qui est en question ici, mais le christianisme comme religion entre guillemets greffé sur l'aspiration à la liberté de l'être humain. Voilà donc la modernité occidentale et le diagnostic fait par la théologie fondamentale. Alors si on prend maintenant la postmodernité mondiale, alors les choses se complexifient d'une certaine manière. D'abord, il faut bien comprendre le post. Le post, après. Vous voyez, le post est d'une certaine manière ambigu. Il faut bien le reconnaître. Parce que le post, ici, ne peut pas signifier la disparition de la modernité. La postmodernité est une figure mondialisée de la modernité occidentale. Mais attention, donc ça veut dire que la différenciation dont je viens de parler ne disparaît pas du tout. Postmodernité ne veut pas dire revenir à un état antérieur, vous voyez, ce qu'on appelle aussi une culture holistique, vous voyez, où de nouveau la religion a la fonction d'intégration, pas du tout. Donc la différenciation est maintenue. Et dans la postmodernité est maintenue aussi la valeur fondamentale et renforcée de l'individu, donc de l'autonomie. Personne ne veut renoncer, évidemment, si vous voulez, à cela, c'est-à-dire à la valeur fondamentale de l'individu et de l'autonomie et donc de la dignité humaine. Mais, et voilà, le mais est important, le mais va caractériser le post. La postmodernité peut être caractérisée comme une prise de conscience des effets pervers de la modernité. Les prises de conscience, une prise de conscience des effets pervers de la modernité. Et donc, si vous voulez, je dirais un certain retour à la modestie. La modernité est triomphante. Et la modernité, notamment du XIXe siècle et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, croit pouvoir expulser totalement la religion. C'est un progressisme. La critique de la religion va conduire finalement vers une autonomie de l'homme telle qu'il n'a plus besoin de la religion. Alors la postmodernité est infiniment plus modeste. Quels sont les effets pervers, les déstructurations sociales que nous connaissons? La relativisation de la notion du travail, la question écologique. Est-ce que c'est pas, comment dire, cette conception d'un homme autonome, je dirais, par rapport à la création qu'il exploite jusqu'au bout, à travers les sciences, etc., et les techniques qui va conduire vers le désastre écologique que nous connaissons. Les hiérarchies sociales se sont renforcées. Vous voyez, c'est une prise de conscience très lente et qui fait sortir l'Europe au fond de ce qu'on pourrait appeler une inconscience eurocentrique. une inconscience eurocentrique. Voyez, le Concile Vatican II, évidemment, il y a 2300 évêques, 2500, tous les continents sont là, évidemment. Mais grosso modo, c'est quand même, j'ai dit, c'est les Occidentaux et les Européens surtout qui ont beaucoup mené les choses. Donc il y a encore, évidemment, l'époque de la décolonisation, mais il y a encore une sorte d'inconscience eurocentrique. Alors maintenant, c'est clair, on est dans un univers totalement différent, 50 après, pluriculturel, pluripolaire. Alors, il y a donc une nouvelle situation culturelle qui est donnée et dans laquelle nous sommes, et ce qu'on appelle la mondialisation, avec une nouvelle trinité, si je puis dire, en dehors de la technique point de salut, hors du marché point de salut, hors des médias point de salut. Quand j'étais à la revue Concilium, en 1997, on a fait un numéro extra-média, nulla salus, en dehors des médias point de salut. Et on voit le bien. Tout à fait. Donc, un monde mondialisé, le grand village, pourrait-on dire, global, dans lequel nous vivons, et évidemment, en raison d'Internet, etc., etc., vous connaissez ça presque mieux que moi, nous sommes dans une rationalité systémique, comme on dit, totalement intégrée. C'est les questions de processus du comment qui sont centrales, voyez. Et le reste est totalement pluralisé. Les religions pluralisées, les convictions intimes pluralisées, tout peut être présenté sur des réseaux sociaux, etc. Le meilleur et le pire, nous le savons bien. Alors, vous voyez, ça renforce, au fond, le diagnostic de Peter Berger. Le marché des biens religieux, les convictions et les religions viennent objet de marché, encore plus, des concurrences. Et donc aussi avec des résistances qui s'organisent sans doute plus fortement et qui sont un peu notre espérance, si je puis dire. Des résistances, mais les résistances sont totalement ambiguës, parce que les résistances, les intégrismes, sont de l'ordre de la résistance. Vous voyez, quand tous les biens se ressemblent sur un supermarché, et vous avez, je dirais, 56 pâtes dentifrices, je dirais, qui se ressemblent de plus en plus, vous ne savez plus quelle marque choisir. Donc, il faut évidemment tout faire pour redéfinir les contours d'une manière précise. Et les sociologues nous disent, bon, l'intégrisme catholique, par exemple, c'est cela. L'intégrisme islamique, c'est pour une partie de ça. C'est-à-dire, on revient au noyau dur. Au noyau dur. Pour qu'on voit pourquoi on est ceci ou cela. Les intégrismes. Et donc, la question de la communication et de l'œcuménisme devient beaucoup plus difficile dans cette situation actuelle. L'œcuménisme n'a pas bon presse. Voilà. On craint qu'on perd son âme, vous voyez. Donc des résistances. Et derrière cette question des résistances, finalement, vous voyez, va émerger, c'est le point suivant, toujours dans B, ce qu'on appelle le scepticisme radical par rapport à la question de la vérité. Ça, c'est, si vous voulez, dans mon diagnostic spirituel maintenant, de la culture mondialisée, le point dur, si je puis dire. Là, je touche au spirituel. Nous sommes tous devenus consciemment ou inconsciemment sceptiques par rapport à la question de la vérité. Parce que dire ceci est vrai d'un point de vue religieux, je ne dis pas d'un point de vue scientifique, même les scientifiques sont d'ailleurs assez sceptiques par rapport à la vérité, hein. C'est-à-dire ils ont plutôt la thèse de la réfutabilité. Une théorie scientifique doit montrer sa réfutabilité. Donc, elle est provisoirement vraie, jusqu'à ce qu'on a trouvé mieux. Donc, affirmer que quelque chose est vrai est immédiatement, dans une culture mondiale, ressenti comme un acte de violence. Vous voyez, c'est ça le problème. Le scepticisme radical par rapport à la question de vérité, et je vous ai déjà signalé ça lors de notre première séance, que nous-mêmes nous sommes tentés simplement d'argumenter en fonction de notre manière de vivre, en laissant la question « le christianisme est vrai » un peu en suspense. Voilà. Donc la société mondiale, elle tente tout, non pas pour dire ce qui est vrai, mais pour régler les conflits de voisinage. Voyez, c'est ça plutôt qui remplace la question de la vérité. Il faut créer un globe viable, et si possible aussi pour les générations futures. Donc on ne s'interroge pas sur ce qui est vrai. Alors, il y a deux auteurs ici, évidemment, qui ont beaucoup réfléchi à ça. C'est Nietzsche, qui parle du perspectivisme radical. Voilà, Nietzsche, le perspectivisme radical, il n'y a pas la vérité. Hein. Il y a des perspectives sur la vie. Et ces perspectives sont fondamentalement plurielles. La vie est violente et plurielle. Chacun a sa perspective. Et ensuite, Max Weber, dans ce célèbre texte « Le savant et le politique », c'est un cours qu'il a donné à Berlin, a repris cette idée-là, et vous trouvez ça aussi chez Jean-François Lyotard, « La condition postmoderne ». Donc vous voyez, on va lire un peu ce texte qui date déjà de 1919, « Le métier et la vocation du savant », non, « Le savant et le politique ». Une sorte de charte de la postmodernité, même si nous sommes en 1919, juste à la sortie de la Première Guerre mondiale. Mais il y a comme une sorte d'anticipation déjà de ce qui est le postmoderne. Les savants peuvent et doivent encore vous dire que telle ou telle partie que vous adoptez, donc vous et moi, vous c'est le parti et moi le parti catholique ou le parti luthérien ou le parti islamique, etc. Les savants peuvent et doivent encore vous dire que telle ou telle partie que vous adoptez dérive logiquement et en toute conviction quant à sa signification de telle ou telle vision dernière et fondamentale du monde. Donc nous vivons dans une tradition, je le disais au début, nous vivons dans une langue, dans une vision du monde, et il y a une pluralité. Une prise de position peut ne dériver que d'une seule vision du monde, mais il est également possible qu'elle dérive de plusieurs, différentes entre elles. Ainsi, le savant peut vous dire que votre position dérive de telle conception et non d'une autre. Reprenons la métaphore que nous avons utilisée tout à l'heure. La science vous indiquera qu'en adoptant telle position, vous servirez tel Dieu et vous offenserez tel autre. Voyez ce qu'on appelle le polythéisme. Le polythéisme des visions du monde, le polythéisme des valeurs. Voilà la thèse de Max Weber. Ça, c'est la postmodernité. La postmodernité est de nouveau polythéiste. Polythéiste. Parce que si vous restez fidèle à vous-même, vous en viendrez nécessairement à telles conséquences internes, dernières et significatives. Voilà ce que la science peut apporter du moins en principe. C'est également cette œuvre que cherche à accomplir la discipline spéciale qu'on appelle philosophie et les méthodologies particulières aux autres disciplines. Voyez, je suis en train de faire d'épistémologie avec vous. Si nous sommes en tant que savants à la hauteur de notre tâche, ce qu'il faut évidemment présupposer ici, nous pouvons alors obliger l'individu à se rendre compte du sens ultime de ses propres actes, ou du moins l'y aider. Il me semble que ce résultat n'est pas tellement négligeable, même en ce qui concerne la vie personnelle. Lorsqu'un professeur obtient ce résultat, je suis alors enclin à dire qu'il est au service de puissance morale, à savoir le devoir de faire naître en l'âme des autres la clarté et le sens de la responsabilité. Donc, voyez, dans la postmodernité, la responsabilité, c'est de reconnaître mon propre point de vue. Je vis dans un monde et je ne vis pas dans le monde de l'islam ou dans tel autre monde. Voilà. Et au fond, il n'y a pas de point de vue ultime, ce qu'on appelle parfois un peu vulgairement le point de vue de Sirius. voyez, ce regard, je dirais, ultime que nous aimons tant adopter, ça serait du totalitarisme. Il n'y a qu'une pluralité de points de vue, le polythéisme. Voilà. Je crois qu'il lui sera d'autant plus facile d'accomplir cette œuvre qu'il évitera par scrupule d'imposer ou de suggérer personnellement à ses auditeurs une conviction. Les opinions que j'expose présentement devant vous ont en vérité pour base la condition fondamentale suivante. Voilà la postmodernité maintenant. Pour autant que la vie a en elle-même un sens et qu'elle se comprend d'elle-même, elle ne connaît que le combat éternel que les dieux se font entre eux. Ou, en évitant la métaphore, elle ne connaît que l'incompatibilité des points de vue ultimes, possible, l'impossibilité de régler leurs conflits et par conséquent la nécessité de se décider en faveur de l'un ou de l'autre. Voilà un texte remarquable, vous voyez, qui dit parfaitement ce que c'est la postmodernité. Et on pourrait dire le tout économique fonctionne aussi de cette manière-là. Vous voyez, c'est la lutte au fond des points de vue ultimes. La lutte des points de vue ultimes. Alors comment réagir par rapport à ça, vous voyez. Je reviens de nouveau au problème d'interprétation. Donc, vous voyez, c'est là où, vous voyez bien le passage, il faut faire ce que j'ai expliqué dans mon premier point, c'est le problème de l'interprétation. Il faut faire un diagnostic culturel précis. Ce que je viens de faire avec deux textes, Durkheim et Max Weber, deux grands textes, reconnus, vous voyez, qui disent deux types de culture. Nous sommes dans la deuxième, sans nier la première. Mais ensuite vient le discernement spirituel. C'est pas la même chose. Vous voyez le passage aux disponibilités, le paysage spirituel de notre époque. Alors, je dirais pour ma part ici cela. Sans doute faudra-t-il résister, ça sera l'enjeu de la deuxième partie du cours, au scepticisme quant à la question de la vérité. C'est au moins ma position. Ne plus prétendre à dire le vrai, même si c'est difficile. Ne plus élever des prétentions universelles en termes de normes et de vérité, je dirais c'est perdre la capacité de dénoncer les effets pervers de la mondialisation. Qu'est-ce qui nous permet de résister à la violence? Voyez. Qu'est-ce qui permet? Voyez, c'est là où il y a l'enjeu. Est-ce qu'il faut se résigner à cette affirmation de Max Weber? Vous voyez ce qu'il dit? Elle connaît, où est-ce que c'est la finale? Ou pour autant que la vie en a elle-même un sens et qu'elle se comprend d'elle-même, elle ne connaît que le combat éternel que les dieux se font entre eux. Est-ce que c'est ça, finalement? Le combat éternel entre les deux, le polythéisme. Ou est-ce que le christianisme, d'abord le judaïsme et le christianisme, n'a pas introduit précisément dans ce polythéisme autre chose? Et quoi? Et quoi? Voilà la question. Autre chose. Et je pense qu'on ne peut pas résister à ce qui est déshumanisant dans la mondialisation si on ne pose pas quelque part quand même la question de la vérité. Et même la question des droits de l'homme, vous voyez, est cette tentative, au fond, de dire ultimement quelque chose de vrai ou de prétendre à la possibilité de pouvoir dire quelque chose de vrai sur l'être humain. Mais voyez bien, c'est une ligne de crête que nous engageons ici, une ligne de crête et qui est tout à fait décisive pour la théologie et pour le christianisme. Alors, la théologie fondamentale en postmodernité, je dirais après Rahner, Metz et la première théologie, la libération, est dans une grande difficulté. Il faut bien le reconnaître. Parce qu'elle est en face d'un éclatement. Voyez, un éclatement qui a conduit, si vous voulez, je dirais, vers plusieurs types de théologie. D'abord, la théologie du pluralisme religieux. Évidemment, la théologie du pluralisme religieux est une théologie en postmodernité qui s'affrontent au texte de Max Weber, au pluralisme radical sur le plan religieux. Il n'y a rien de vrai. Il y a une pluralité de cultures et de religions. Il y a ensuite une nouvelle théologie, la libération, pourrait-on dire, notamment en Amérique latine, mais pas uniquement. C'est-à-dire une théologie de la libération qui n'est pas uniquement moderne, c'est-à-dire qui ne s'intéresse pas uniquement à la critique de la religion, et donc à l'idée d'autonomie et la conscience et à la liberté, libération, mais qui montre aussi qu'il n'y a pas de libération peut-être sans le religieux. Sans le religieux. Le religieux n'est pas nécessairement aliénant. Et donc ça, c'est l'intérêt d'une nouvelle théologie de la libération en Amérique latine. Et vous avez aussi, évidemment, les théologies féministes, par exemple, qui sont aussi des théologies post-modernes, vous voyez. Toute une catégorie de l'humanité qui, dans une théologie quand même essentiellement masculine, a complètement disparu. Voilà. Voilà, pour vous dire le problème devant lequel nous sommes dans ce paysage spirituel. Alors, pour terminer ce chapitre, je vous propose donc maintenant un dernier point que j'ai intitulé « Question de sens ». Comment se pose donc, je dirais aujourd'hui, s'il faudrait réécrire « Gaudium et Spes », comment se pose finalement ce diagnostic spirituel de l'être humain, culturel et spirituel, maintenant? Postmodernité sans nier la modernité. Alors, plusieurs points. Je dirais d'abord peut-être le facteur commun, je le formule un peu avec une sorte de thèse ici, culturellement, après viendra une citation, la vie, si nous portons, mettons ce terme au centre maintenant, ce qu'on fait beaucoup, la vie, qu'est-ce que c'est la vie? Une philosophie de la vie. La vie impliquant évidemment aussi toute la question écologique. La vie sur notre globe. La vie est éprouvée par la plupart comme fondamentalement problématique. Problématique. Ça, c'est le tout premier diagnostic. Et je vous donne ici une citation. À la fin de l'ouvrage de Marcel Gauchet, « Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion », ça remonte déjà un tout petit peu, on est tout à fait au début, au fond, de cette prise de conscience d'une postmodernité. « Dans la mesure où la plupart des traditions religieuses supposaient la référence, c'est là moi encore qui parle, la référence à la transcendance comme d'emblée acquise, d'emblée, il faut souligner, d'emblée acquise, cette référence religieuse protégeait l'homme contre la radicalité de l'expérience de sa contingence. Au fond, ce que je disais tout à l'heure en commentant le texte de Durkheim, la première fonction de la religion, c'était de protéger l'être humain contre le chaos. Pas uniquement les sociétés dans lesquelles nous étions intégrés, mais aussi, d'une certaine manière, l'itinéraire de l'être humain était tracé entre la naissance et la mort, par le calendrier, par l'espace, par les hiérarchies sociales, etc. La contingence, voyez, n'émergeait pas réellement. Mais aujourd'hui, maintenant la citation de Gauchet, « Rien ne secourt les individus, ni ne les appuie plus face à la question qui leur est retournée de toutes parts en permanence. Pourquoi moi? Pourquoi naître maintenant quand personne ne m'attendait? À quoi bon avoir vécu si l'on doit disparaître sans laisser de traces, comme si aux yeux des autres vous n'aviez pas vécu? Nous sommes voués à vivre désormais à nu et dans l'angoisse, ce qui nous fut plus ou moins épargné depuis le début de l'aventure humaine par la grâce des dieux. » Et maintenant la phrase décisive, « À chacun d'élaborer ses réponses pour son propre compte. » Voilà. La question du sens à laquelle personne ne peut répondre à la place, je dirais, d'un autre. Donc ça, c'est, si vous voulez, la première affirmation. Alors maintenant, deuxième affirmation. Vous voyez, on peut aborder, si vous voulez, la question maintenant du sens à travers les grandes élaborations, ce que j'appelle les grandes élaborations de sens. Et donc mis en concurrence aujourd'hui sur ce marché des biens communs. Mais au fond, c'est une élite cultivée qui peut aborder la question du sens à travers ces grandes élaborations. Ce n'est qu'une élite qui fait cela. Alors, vous avez le silence agnostique. Je mets quelques positions ici en place. Le silence plus ou moins conscient devant l'énigme tragique de l'existence. La tragédie. Silence. Ah, je ne sais pas. Et ça peut être une position très décidée, vous voyez, même spirituellement décidée d'une certaine manière, l'agnosticisme. Alors ensuite, je dirais l'effort qu'on pourrait qualifier de stoïcien, que j'ai rencontré personnellement beaucoup dans les milieux scientifiques. L'effort stoïcien pour faire disparaître l'individualité comme élément passager du grand tout de la vitalité cosmique et cyclique de l'univers, finalement. Au fond, l'individu émerge et disparaît, voyez. Et d'une certaine manière, il y a une ascèse stoïcienne à vivre, à ne pas trop appuyer le sujet. Et on trouve ça notamment, je dirais, chez les cosmologues, chez un certain nombre de scientifiques, cette sorte de position. Donc, stoïcienne. Ou, au contraire, vous voyez, l'attitude hédoniste de celui qui, face au scandale de la contingence, exige de tout vivre maintenant et intensément. L'épicurisme, vous voyez, on a aussi cet art-là, d'une certaine manière. Et finalement, quatrième position que je propose, vous voyez, l'essai de ceux qui rencontrent à nouveau telle ou telle grande tradition religieuse, mais désormais en fonction de l'exigence moderne d'élaborer leur propre réponse au caractère problématique de la vie humaine. Donc voyez, je me réfère dans un second temps de nouveau à la tradition chrétienne. Mais je m'y réfère précisément à partir de cette formule, à chacun d'élaborer ses réponses pour son propre compte. Vous voyez, c'est le rapport à la tradition elle-même qui mute ici. Et ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Je disais, ça vaut beaucoup, si vous voulez, je dirais, pour le monde, je dirais, cultivé. Mais ce qui est le propre de ces grandes réponses et de ces grandes élaborations, et je vous invite à vous rendre sensible à ça, c'est que toutes ces réponses élaborent des styles de vie, des manières de vivre. Et souvent, je dirais, les gens autour de nous rencontrent ces grandes élaborations, non pas, si vous voulez, dans leur fine pointe intellectuellement pensée, le dogme chrétien, l'écriture, vous voyez, ou le Coran dans toutes ses formulations, etc. Mais dans des styles de vie, des manières de vivre, dans la ritualité quotidienne, que les gens bricolent et élaborent et réélaborent. Et c'est une manière, au fond, je dirais, de vivre ce qui est éprouvant dans l'existence humaine, dans la vie, la contingence, et ils vivent de cette manière la question du sens. Voyez, ce que j'appelle le point d'importance, ce qu'on appelle les styles de vie, c'est des manières extrêmement diverses, au fond, de vivre concrètement, je dirais, son existence, dans la manière d'habiter sa maison, son appartement, dans la manière de fêter, de rencontrer les autres, de vivre ses loisirs. Tout ça, si vous voulez, c'est des éléments qui entre dans des élaborations concrètes de sens. Et du coup apparaît, si vous voulez, je dirais, un troisième tiret ici, un troisième élément. Pourquoi c'est si difficile? Au fond, je dirais, c'est le temps et l'espace éclaté dans lesquels nous vivons et qui caractérise notre postmodernité. Je disais déjà que nous sommes tous devenus des nomades qui voyagent, mais quand vous regardez les gens et leur existence dans les grandes métropoles, le temps qu'ils passent dans les transports communs pour arriver, je dirais, à leur lieu de travail, ils retournent, ils ont une vie familiale très réduite, une vie associative, parfois une vie politique, parfois une vie sportive, vous voyez, je dirais, les loisirs, etc. Ce qui fait que la plupart des êtres humains ont plusieurs vies en même temps. Et donc ce qui fait des éclatements affectifs aussi que nous connaissons, des ruptures, vous voyez. Ils ont plusieurs vies aussi, je dirais, à la suite, vous voyez, une partie de leur existence pendant 10 ans. Ensuite, il y a la rencontre de quelqu'un d'autre, des divorces, recommencent une nouvelle étape de leur existence. Et donc, vous voyez, c'est ça la question fondamentale du sens. Comment, au fond, accéder à un sens unifié de l'existence dans une telle situation. Et du coup, on peut comprendre, au fond, ce qu'un certain nombre de philosophes appellent la mort de l'homme. Au fond, c'est l'ultime alternative spirituelle qui nous est proposée, je crois, aujourd'hui avec force dans la modernité et la postmodernité, cette alternative, la mort de l'homme. C'est-à-dire de fonctionner simplement selon les modes. Selon les standards qui nous en sont proposés, il convient de vivre ceci et cela, et chacun se conforme finalement à une mode ou un style qui lui est proposé, une sorte de préfabriqué dans lequel il entre. Ou vivre de manière authentique, l'alternative. Vivre de manière authentique. Et voyez, j'appelle ça le miracle, au fond, par excellence, que nous pouvons peut-être observer. Je reviens à mon point de départ. Le diagnostic du temps présent est à la fois un diagnostic culturel, mais un diagnostic spirituel, un peu à la manière de Jésus. Le miracle, c'est que nous rencontrons des gens qui tiennent debout dans cela, quotidiennement. Des gens qui tiennent debout, c'est-à-dire qui ne relève pas de la catégorie mort de l'homme, c'est-à-dire du fonctionnement, qui tiennent debout, et nous observons ce que les philosophes appellent la puissance d'exister en eux. La puissance d'exister. Ils existent. Et dans cette existence apparaît sans doute, je dirais, un double élément de sens. C'est-à-dire, il y a quelque part une cohérence dans leur existence, une cohérence, ce qu'on appelle l'authenticité, et ils se savent reconnus ou attendus quelque part. Vous voyez, ce qui était le problème de Gaucher, reconnus quelque part, la relation. Voilà, si vous voulez, une manière un peu plus concrète d'aborder la question du diagnostic du moment présent, à la fois culturellement et spirituellement. Et apparaît ici, évidemment, je dirais, une énorme difficulté pour l'Église et pour la théologie. Si c'est vrai ce que je viens de dire, comment socialiser la question du sens ? Comment ecclésialiser la question du sens? Comment socialiser? Vous voyez, c'est une question de parole. C'est pas uniquement tenir debout seul avec quelques-uns dans une association, dans un petit groupe, dans un club de foot ou je ne sais pas où, vous voyez, ou dans chez Médecins sans frontières. C'est incroyable ce qui est né dans nos sociétés civiles comme force de résistance par rapport à l'uniformisation, par rapport à la globalisation, etc. C'est impressionnant de voir ça. Mais comment fonctionne la socialisation du sens et finalement la socialisation de la foi? C'est ça la grande question. Donc la tâche de la théologie fondamentale, conclusion ici, c'est évidemment d'articuler l'infiniment concret, ce qu'on appelle le local, la contextualisation et en même temps de jamais perdre de vue le contexte global culturel que je viens de vous exposer assez rapidement, mais j'espère d'une manière suffisamment précise. Ce qui conduit maintenant vers la dernière partie de cette introduction, dans le quatrième chapitre, face à ce que je viens de dire sur le paysage moderne et postmoderne, compris comme paysage spirituel, comment la théologie fondamentale peut-elle se situer? Et donc ça c'est le quatrième chapitre, la théologie fondamentale entre l'Église et la société. Je disais déjà, la théologie fondamentale, c'est le ministère des Affaires étrangères de l'Église. Communication, la situation initiale, l'autre qui n'est pas chrétien, quiconque dont je viens de parler, le rapport à quiconque. Et cela, évidemment, dans une herméneutique et dans une apologétique. Et pour faire cela, je pense qu'il n'y a pas de meilleure d'entrée que d'étudier rapidement la théologie fondamentale, je dirais, dans son histoire, et je dirais d'abord comme discipline européenne, sous l'angle de son rapport à l'autre, à quiconque. Et c'est poser les questions de sa désoccidentalisation. Voilà, c'est pour consoler un tout petit peu ceux et celles ici qui ne sont pas européens. C'est-à-dire le problème pour la théologie fondamentale, elle est européenne. Elle est née au XVIe siècle, je vais vous montrer cela, dans le rapport, je dirais, au sein des sociétés européennes, au luthéranisme, au calvinisme, au protestantisme, le Concile de Trente, qui introduit pour la première fois la notion de fondement fondamental. Voilà, elle naît dans ce contexte, elle évolue jusqu'à Vatican II, encore dans un contexte européen, et évidemment dans une mondialisation, il faut que la théologie fondamentale puisse poser les conditions d'une désoccidentalisation, d'une déméditerranéisation. C'est même, je dirais, l'enjeu principal, je dirais, aujourd'hui. Et donc, elle va se greffer sur les questions fondamentales de l'homme. Elle va réfléchir à la position de l'autre, comment est considéré l'autre, et comment la position de l'autre va-t-elle refluer, évidemment, sur elle comme théologie fondamentale. Alors, je disais à l'instant, ça commence, si vous voulez, je dirais, au XVIe siècle. Et je vous renvoie maintenant, vous pouvez déjà étudier un tout petit peu la bibliographie que vous avez donc à la fin dans votre dossier. On peut y jeter un coup d'œil à la page 51. Vous avez d'abord les documents de l'Église ici indiqués. Donc il y a le célèbre Denzinger Hünermann, symbole et définition de la foi catholique. Vous voyez, ça c'est une sorte de collection de tous les textes que l'Église a pondus, officiels, depuis les premiers symboles jusqu'à Vatican II et même après, et qui relèvent de la normativité de la foi. J'expliquerai tout cela. Et je vous renvoie aussi à l'édition des décrets de tous les conciles œcuméniques. Je préciserai aussi cela. Deuxième volume indiqué, j'ai déjà cité l'intégrale de Vatican II. Mais je vous renvoie, pour ce qui vient maintenant, à l'ouvrage « Histoire des dogmes » que j'ai publié avec le père Cesboué, le volume 4. Le volume 4. Donc j'enverrai régulièrement maintenant à ce volume 4, notamment la dernière partie, où vous allez retrouver un certain nombre d'informations qui vont venir maintenant. Et vous avez ensuite des ouvrages de base à travailler, troisième catégorie, 51 toujours. Donc là, si vous voulez, vous avez notamment peut-être Jean-Baptiste Metz, « La foi dans l'histoire et la société », je l'ai cité déjà tout à l'heure, une théologie politique fondamentale. Henri Bouillard, « Facile d'accès, vérité du christianisme », ou mon propre ouvrage, « La révélation tout simplement », évidemment, je m'inspire de cela, je dirais, pour ce cours ici. Pour le moment, si vous voulez, ça suffit. Utilisez bien aussi les dictionnaires. Et à la page 53, voyez, vous avez les références déjà un peu au paysage spirituel de notre époque. Vous avez là les ouvrages que j'ai utilisés tout à l'heure. Alors, juste un dernier petit mot avant de terminer. Sur donc la naissance de la théologie fondamentale. Donc vous voyez, la question de l'autre se posait depuis le point de départ, depuis l'Antiquité. J'ai déjà cité Justin, n'est-ce pas, qui donne le temps. Pour Justin, l'autre, il y a deux autres, c'est le juif, figure, donc vous voyez, l'apologie contre Tryphon, qui l'a fait, et c'est les païens, les philosophes. Et on va vivre, au fond, je dirais, pendant toute une partie, le premier millénaire, avec cette triade, cette typologie, au point qu'on a appelé parfois les chrétiens tertium genus, c'est Tertullien, le troisième genre, premier genre du monde connu, les juifs, deuxième genre, les païens, troisième genre, les chrétiens. Donc la figure de l'autre et l'apologétique va se situer dans cette triade. Elle est totalement méditerranéenne. Et au moment où l'islam va émerger, il y a un nouveau partenaire qui va paraître. Mais il faut attendre, au fond, le 11e, 12e siècle seulement, que vous avez des débats réels avec les musulmans. C'est-à-dire, les musulmans ne sont plus considérés comme des païens, monothéisme païen, mais comme une religion. Et donc, à ce moment-là, on a une quadripartition. Une quadripartition. Voilà, l'autre au sein de l'Église occidentale. Tout ça, c'est pas encore vraiment, si vous voulez, une théologie fondamentale. Elle va naître au XVIe siècle, quand tout d'un coup, avec force, dans l'Occident, va paraître la séparation au sein même de l'Église occidentale, les luthériens, les calvinistes, ce qu'on appelle parfois les protestants, vous voyez, terme un peu impropre, et avec le Concile de Trente. Et tout d'un coup, la question du fondement va émerger. Sous la double forme, la foi catholique, c'est quoi? Pour la première fois, on le pose comme ça, parce qu'on a en face, on l'a pas posé en face des orthodoxes. Vous voyez, 1054, il y a eu déjà la grande séparation entre l'Orient et l'Occident. Mais à partir du XVIe siècle, on est obligé de poser cette question. La foi catholique, c'est quoi? Pourquoi y adhérer? Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Vous avez tous les textes la prochaine fois. Et on va voir avec le deuxième point, vous voyez, les trois grandes traités de la théologie fondamentale occidentale. La démonstration catholique, chrétienne et religieuse pendant le Concile Vatican I, et ça va nous conduire à la page 13 au Concile Vatican II, dont j'ai déjà parlé aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, je pense, on a deux séances, me semble-t-il, donc le mardi et le mercredi, chaque fois à 17h. Voilà. Donc, à mardi prochain. Et mercredi prochain, aussi à 17h, il fallait placer dans l'agenda, pendant le premier semestre, l'ensemble des séances. Donc c'était un peu compliqué et finalement je crois qu'on a deux fois aussi un mercredi. J'espère que vous avez pu l'enregistrer, sinon vous regardez dans le programme, les dates, je les vérifie, sont précises. Voilà, bonne semaine.